invité la ministre de l'Agriculture Annie Genevard au lendemain de l'accord sur le Mercosur et au surlendemain des décisions donc de l'exécutif sur le budget, puisque Matignon nous annonce des décisions importantes qui seront prises demain. La France bouge arrive. Bonsoir Aurélien Fleurot.
Bonsoir Pierre, ce soir une France bouge consacrée à des innovations qui permettent de détecter et donc de se protéger des incendies, des départs de feu. Nous recevrons deux start-up et puis une association qui travaille en direct avec les pompiers.
Bonne émission.
Europe 1, 21h. Le point sur l'actualité, c'est avec vous Maël Hassani.
Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Le gouvernement acte ce soir l'impossibilité de faire adopter le budget par un vote. Deux options restent donc sur la table, 49-3 et les ordonnances. Et pour éviter la censure, Matignon, qui juge possible de parvenir à un compromis, promet de faire des propositions dès demain. L'entourage du Premier ministre promet de trancher d'ici mardi sur la méthode pour faire passer le projet de loi de finances, toujours en cours d'examen à l'Assemblée ce soir. L'Iran a suspendu 800 exécutions prévues initialement hier. C'est ce qu'affirme ce soir la Maison-Blanche. Les États-Unis menacent depuis plusieurs jours d'intervenir pour mettre fin à la répression meurtrière des manifestations contre le régime des Mollahs. Menace qui a pu dissuader la République islamique de réaliser ses mises à mort. Toutes les options restent sur la table côté américain, précise tout de même la porte-parole de Donald Trump. Le déploiement de troupes européennes au Groenland n'a aucun impact sur l'objectif de Donald Trump d'acquérir le territoire. Déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche ce soir. Des soldats français, allemands, norvégiens et suédois sont déployés sur l'île administrée par le Danemark depuis ce matin pour une mission militaire de dissuasion. Emmanuel Macron promet d'envoyer des renforts terrestres, aériens et maritimes dans les prochains jours. Le président de la République prononçait aujourd'hui ses vœux aux armées. Il a appelé à faire plus vite et plus fort pour réarmer la France en réclamant notamment 36 milliards d'euros de plus d'ici 2030 pour la défense dans le cadre de la loi de programmation militaire. Plusieurs actions d'agriculteurs organisées encore aujourd'hui à deux jours de la signature du traité du Mercosur. 70 tracteurs réunis devant la préfecture du Rhône à Lyon, du foin et des déchets déversés sur la chaussée. 200 manifestants dans le centre de Dijon. Des opérations escargot dans le département de Meurthe-et-Moselle. Le député insoumis David Guiraud, relaxé des accusations d'injures publiques à caractère antisémite, formulées à son encontre par un ancien député apparenté LR, Meyer Habib. Au cours d'une altercation entre les deux hommes dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en 2024, l'élu LFI avait traiter son collègue de porc devant les caméras de télévision. Des faits qui ne constituent pas une infraction, indique le tribunal. Meyer Habib va faire appel. Une enquête pour harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider, ouverte par le parquet de Meaux. Deux jours après le décès d'une lycéenne de 17 ans, l'adolescente s'est donné la mort en gare de Mitry-Mory en Seine-et-Marne, après un rendez-vous avec le directeur de son établissement, selon la famille de la victime. 180 millions de colis livrés en France en novembre et décembre 2025, avant les fêtes de fin d'année. 6% de plus qu'un an auparavant. Bilan dévoilé aujourd'hui par La Poste. Et puis une entrée en lice réussie à l'Euro pour l'équipe de France masculine de handball. Les Bleus dominent largement la République tchèque ce soir à Oslo. 42-28, score final. Prochain match de l'équipe de France samedi contre l'Ukraine. Vous écoutez Europe 1, il est 21h03 et vous retrouvez La France bouge avec Aurélien Fleurot.
Merci Maël. Prochain point sur l'actualité à 22h. Dans un instant, émission consacrée à des solutions pour se protéger au mieux des incendies.
Bonjour, c'est Stéphanie Demuru. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Ouvrir le micro à toutes les opinions.
Stéphanie Demuru, Europe 1 Soir Weekend, du vendredi au dimanche, de 19h à 21h.
La radio libre.
Vous venez de finir votre série préférée. Après 9 saisons, vous dites au revoir à Dan, Jesse, Sam et Roger. Ils vont laisser un vide dans votre cœur. Alors pour vous consoler, vous commandez votre plat préféré sur Deliveroo. Ça tombe bien, avec Amazon Prime, l'abonnement Deliveroo plus argent est offert. Et donc, les frais de livraison aussi. Au moins, ça laissera pas de vide dans votre estomac. Ah, voilà votre Deliveroo. Ah, là, on est très bien. Abonnement Deliveroo plus argent avec Amazon Prime. Frais de livraison offert et avantages soumis à condition. Voir Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Europe 1, la France bouge.
21h, 22h.
Aurélien Fleurot.
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour La France Bouge, votre rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat, grandes entreprises, start-up, aventures personnelles au menu chaque soir. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une émission consacrée à des innovations qui permettent de lutter contre les incendies, les départs de feu, que ce soit à la maison, dans des lieux qui accueillent du public ou en forêt. Deux start-up et une association viendront nous présenter leurs solutions, à commencer par Jacques Pitou. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être avec nous. Vous avez fondé Blockfire International et vous allez nous expliquer ce que sont ces boules extinctrices qui vont stopper un départ de feu. On va débuter l'émission avec vous dans quelques secondes. Deuxième invité, Dimitri Bernard. Bonsoir. Merci à vous d'être là, fondateur d'Aero Xense. Vous avez travaillé sur des mini extincteurs automatiques à base d'aérosol condensé. Pour tout comprendre, vous allez nous détailler tout cela d'ici quelques minutes. Enfin, on va s'intéresser à Pyronir. C'est une association qui propose, on va dire, une mini station de détection de départ de feu en forêt grâce à de l'intelligence artificielle. Un travail en lien direct avec les pompiers. Bonsoir Matteo Lostenlaine.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous également. Rendez-vous en fin d'émission. Et à mes côtés, évidemment, le coach du soir, David Smadja. Bonsoir David.
Bonsoir Aurélien.
Fondateur du cabinet Milestone Avocat. Alors, que vous inspirent ces innovations, notamment les deux startups ?
Je dirais qu'en un mot, je trouve qu'elles sont très opérationnelles. Parce que finalement, le point commun qu'elles ont aujourd'hui, c'est cette capacité à transformer une technologie en un outil opérationnel qui soit facile à installer, facile à comprendre et évidemment facile à déployer.
Effectivement, du très concret. Merci David, vous avez le programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1.
Europe 1,
21h, 22h,
Aurélien Fleurot.
J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Sometimes you wanna go back. Invincible d'une certaine manière. But it don't work like that.
Do you feel it? Voilà un extrait du film Sauver ou périr avec Pierre Niney. C'est sorti en 2018. Il joue évidemment le rôle d'un sapeur-pompier gravement blessé en intervention. Comment se prémunir au mieux d'un départ de feu ? C'est un sujet du quotidien, dans nos maisons, dans des lieux qu'on va fréquenter. Un sujet qui a malheureusement marqué de manière dramatique ce début d'année à Crans-Montana en Suisse, dans un bar pendant la nuit du réveillon. Et puis, les incendies, les feux de forêt, ça fait aussi malheureusement la une de l'actualité quasiment chaque été désormais. Alors ce soir, on a décidé de s'intéresser à des solutions, des innovations, et on débute avec celle de Blockfire International.
Europe 1,
le talent de la France bouge.
Merci Jacques Pitou d'être avec nous. Vous avez 58 ans, vous avez donc fondé Blockfire International en 2019. Mais avant d'en dire un petit peu plus sur votre start-up, comme souvent dans cette émission, on aime bien s'intéresser au parcours. Et avec vous, c'est assez varié et passionnant, on va le voir. D'abord, pour démarrer, ce que vous dites, c'est que vous êtes un autodidacte.
Oui, je suis effectivement un autodidacte. Alors mon cursus était très très spécial. J'ai quitté l'école à 15 ans et demi.
Ouais.
J'ai absolument aucun diplôme. Quand on me demande si je suis ingénieur, je leur dis non, je suis juste ingénieux.
Pas mal.
Voilà. Et puis j'ai quasiment fait presque tous les métiers, donc j'exagère.
Ah bah j'ai commencé noté quelques-uns en préparant l'émission avec l'équipe, avec César notamment. Alors, vendeur de glace, dans la production musicale, vidéoclub, la création aussi d'un système d'ouverture pour les bouteilles de champagne. Enfin, vous êtes un habitué du concours Lépine notamment.
Ouais, disons qu'avant de tomber dans l'invention, ouais, j'ai fait pas mal de métiers, surtout orienté partie musicale à l'époque.
Ouais.
J'ai été disque jockey, après j'ai voulu faire de la production musicale.
C'est ça.
J'ai passé beaucoup de temps à Paris, avec beaucoup de personnalités très connues. Et voilà, après j'ai eu mon premier commerce à 18 ans, c'était un vidéoclub, c'était vraiment le début de la cassette vidéo à l'époque.
Oui.
J'ai eu un centre télématique à Toulouse, voilà, les fameux 3615, les mitaines n'existent plus, mais bon, à l'époque ça existait. Et un jour par accident, en 1996, voilà, en ouvrant une bouteille de champagne, la première idée, ma première invention est arrivée, et je n'ai quasiment jamais arrêté de faire d'innovation depuis.
C'est ça, c'est donc à chaque fois, ça part dans le constat. Alors vous dites, voilà, une difficulté à ouvrir une bouteille de champagne ou des huîtres aussi, je crois.
C'est ça, en fait.
Donc à chaque Noël, vous avez une nouvelle idée, en fait.
Oui, vous savez, les inventions, ça vient souvent comme ça. C'est, vous êtes avec des amis, là, on a ouvert une bouteille de champagne, on a perdu quasiment un quart de la bouteille en ouvrant la bouteille de champagne, le bouchon a sauté.
C'est frustrant.
Et plus tard, on m'a expliqué qu'il s'agissait d'une gerbeuse, il suffit qu'il y ait un petit dépôt dans la bouteille et ça fait ce genre de phénomène. Mais nous étions jeunes et mes copains et mes copines autour de la table, on dit, mais, oh, au prix où ça coûte, c'est compliqué à ouvrir.
Alors, juste pour cet exemple-là, justement, comment on se dit de, bah, ok, le constat qu'on a peut-être tous fait, comment on arrive à trouver une solution qui va permettre d'éviter que ça.
Bah,
que
c'est
ça
à partir de là, d'un angle sans, en se couchant, je me suis dit, ils n'ont pas tout à fait tort. Le sujet a duré longtemps, plus d'une heure, et voilà, le lendemain, j'ai été en librairie, j'ai été acheter tout ce qui concerne la Champagne. Je connaissais absolument rien du tout. Je savais pas comment était un bouchon de Liège avant d'être mis dans une bouteille. Ouais. Enfin bref. Et comme j'habitais Nantes, j'ai été à Saumur. À l'époque, ouais. À Saumur, ils faisaient la méthode champenoise. Mm-hmm. Et je suis tombé sur un viticulteur super sympa qui m'a tout expliqué, qui m'a tout montré. Et j'ai compris qu'en fait, dans une bouteille d'un liquide effervescent, ben, la problématique de l'ouverture, c'est la pression qu'il y a entre le niveau du vin et le bas du bouchon. Ouais. Entre les deux, il y a plusieurs kilos de pression. Je crois que c'est 4 kilos de pression, si je ne me trompe pas. C'est ce qui fait la violence de l'ouverture d'une bouteille. Et l'idée, c'était de... Bah, je retire cette pression juste avant l'ouverture et je pourrais l'ouvrir comme un vin tranquille. Et ça a été ma première invention qu'on avait appelée à l'époque Easy Pop.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Bon, ben, toute première mesure. Et depuis, j'ai pas arrêté. Après, j'ai fait. Il y a eu peut-être que certains d'entre vous l'ont connu hein, à l'époque. Il y avait un inventeur qui avait fait un système d'ouverture d'huîtres avec un fil. On ouvrait les huîtres avec un fil. Hein, il s'appelait Yves Renaud. Enfin, il s'appelle toujours Yves Renaud. C'était une super invention. Bon, qui a eu quelques difficultés par la suite parce qu'il y avait un taux de mortalité important. Mais vu l'intérêt, de toute façon, pour les fêtes de fin d'année, les deux premières préoccupations, c'est ouvrir des huîtres, ouvrir des bouteilles de champagne. Les deux sont assez, c'est pas toujours évident à faire. Et je me suis passionné également. J'ai pu présenter lors d'un concours Lépine une machine, un robot ouvre-huîtres, qui ouvre une huître de façon totalement automatique. Bon, ça n'a jamais été commercialisé parce que ça coûterait trop cher. C'est juste ça, c'est le frein, c'est le prix. Hein. Vous pouvez innover, vous pouvez trouver un super truc. C'est et ça si derrière, aussi. Ça coûte trop cher, ben, personne n'achètera.
Effectivement. En tout cas, on a bien compris que voilà ce qui vous a animé pendant de nombreuses années, c'est voilà d'inventer, de trouver des solutions. Justement, venons-en à Blockfire. Comment est venue l'idée là, c'est parti de quoi avant qu'on détaille tout cela?
Alors Blockfire a démarré en format société à la base, ça s'appelait Flight Control. Oui. Je développais des drones pour la sécurité civile. Alors essentiellement, lors d'un concours Lépine, je fais la connaissance de plusieurs pompiers des Bouches-du-Rhône. Et en sympathisant, un soir, ils me disent « Mais Jacques, t'es inventeur, tu pourrais pas nous faire un drone pour intervenir ?» En gros, ils avaient déjà des drones avec des caméras thermiques qui permettaient de surveiller les zones après extinction du feu, après mouillage, mais ils n'avaient pas de moyens d'intervenir. C'est-à-dire qu'en gros, dans les Bouches-du-Rhône, le Var, la Corse, c'est souvent des terrains accidentés, voire inaccessibles. Et le problème d'un départ d'incendie, enfin pas d'un départ, attention, il faut pas faire l'amalgame, c'était vraiment un drone dédié à surveiller les zones après extinction du feu, pour éviter les reprises d'incendie.
D'accord.
Donc du coup, bah, il me propose cette idée-là, tu pourrais essayer de faire un truc. Donc nous avons développé ce que je peux appeler aujourd'hui, je pense, le premier drone pompier, puisqu'il n'en existait pas à l'époque. Et en collaboration avec le ZIS-13, les Bouches-du-Rhône, on a énormément travaillé, on a eu un succès relativement important lors d'une présentation à Ajaccio au Congrès national des sapeurs-pompiers. Mais c'est que nous étudions à ce moment-là une boule excentrice. Une boule excentrice, c'est une boule qui contient du phosphate de monoammonium, c'est une poudre sèche qui va éteindre le feu. Cette boule, au centre, elle est munie d'un explosif, comme un pétard. Et au contact de la flamme, une mèche autour de cette boule va permettre qu'elle éclate.
C'est ça, et donc il y a différents usages. Ben justement, voilà. Allons-y sur le pitch, puisqu'on est dans le concret. Allez-y sur, voilà, en 2026, Blockfire International, quelle solution vous proposez? Vous avez une minute.
Alors, partant d'une boule existante, effectivement, Blockfire a développé, on va appeler ça un extincteur nouvelle génération, qui va permettre tout simplement, un peu comme vous le feriez avec un extincteur traditionnel, vous avez dans vos mains une boule excentrice avec une sécurité, une petite languette de sécurité, je retire cette languette de sécurité, je jette la boule, j'ai pas besoin de m'approcher du feu, ça c'est l'un des premiers avantages, depuis 3, 4, 5 mètres, vous jetez la boule, mais même si on n'est pas en train de jouer à la pétanque, même si vous la jetez à côté, à proximité immédiate du feu, à l'impact, dès qu'il y a un impact mécanique, elle va éclater, diffuser du phosphate de monoammonium, donc cette fameuse poudre sèche, sur 6 à 8 mètres carrés et éteindre instantanément le feu. Bon, l'avantage numéro 1, je viens de le dire, on ne s'approche plus du feu, Parce que bien souvent, et je crois que tout le monde ça, on a beau avoir un extincteur, la société, on est tous équipés, mais lorsqu'il y a un incendie, bah, il y a ce côté courage qu'il faut avoir, parce qu'il faut s'approcher suffisamment du feu, et surtout l'attaquer d'une certaine façon. Donc, Blockfire permet de résoudre ce problème-là. Et l'autre fonctionnalité qui en était déjà une dès le départ, c'est que ça va permettre d'équiper votre maison, votre voiture, votre bateau,
de façon passive.
C'est-à-dire, voilà, en gros, je positionne une Blockfire sur un compteur électrique, sur un tableau électrique, dans une banderie, enfin, partout où il pourrait y avoir éventuellement un risque incendie. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, en votre absence, au contact de la flamme, cette boule va éclater et donc éteindre le feu.
Donc, il faut la positionner de quelle manière, si on se dit, voilà, le tableau classique qu'on a à peu près tous chez soi?
Oui, bah, vous prenez le cas des compteurs électriques, je ne vais pas citer lequel, mais qui a pas mal de fois pris feu, ou
un tableau... Dire, on peut parler de Linky, de DF,
ouais, voilà, tout à fait.
Voilà, c'est un tableau qu'on a un peu tous chez nous. Hein, voilà.
Ou le tableau général de votre maison avec tous les petits compteurs, bah, effectivement, vous positionnez au-dessus, pas au-dessous, mais au-dessus, et ça va brûler, ça va arriver au contact de la boule, elle va donc prendre feu, éclater et éteindre le sinistre.
Est-ce que ça va totalement éteindre ou est-ce que ça va ralentir? Est-ce que ça dépend?
Alors, je dis toujours une chose, il faut être très très clair. C'est un produit, c'est un complément à d'autres produits que vous connaissez déjà. Ça a toujours une limite. Moi je dis bien, on intervient sur un feu naissant, oui, d'une certaine dimension. Si vous positionnez une Blockfire à un certain endroit de votre pièce et que votre feu il part à 3 ou 4 mètres de cet endroit-là, bah, le feu va grossir pour arriver à l'eau, et vous n'éteindrez pas, à moins d'avoir mis plusieurs Blockfire. Donc c'est vraiment, il faut, l'emplacement est très important, et d'ailleurs je suis content parce qu'aujourd'hui je sais qu'on aura d'autres personnes qui ont parlé à propos du même sujet et que d'ailleurs je trouve totalement génial. Donc voilà, c'est très complémentaire, mais je pense que la chose primordiale à rappeler, et c'est un peu ce que je fais là ce soir avec vous, c'est qu'en France, il y a un incendie domestique toutes les deux minutes.
Ouais,
c'est...
toutes les deux minutes.
Et puis surtout, j'arrête pas de le dire, et vous le voyez dans l'actualité, malheureusement, ça ne concerne pas que le voisin. On imagine toujours que ça concerne que le voisin. Mais si tout le monde s'équipait, maison, camping-car, voiture, si j'ai encore un petit temps de parole,
allez,
me souviens d'une chose. Et j'étais pas du tout encore dans ce type d'innovation. J'ai une maison dans les Landes, à Muise-en-Plage, et j'ai de la famille dans le Gers, donc je fais 1h30 de route. Et vous savez, ces fameuses lignes droites landaises, là, voilà, avec des pins autour.
Oui.
Et une après-midi, je partais dans le Gers, et je vois en bord de route, mais de la fumée, au niveau du fossé, un petit peu de fumée. J'appelle les pompiers, donc quelqu'un avait dû jeter un mégot. Et on me dit, oui, vous inquiétez pas, on nous l'a signalé, on intervient. Ok. Je pars dans le Gers, je couche chez mes parents le soir même. Le lendemain, je refais la route dans le sens inverse. Et qu'est-ce que je vois? Ben, plusieurs hectares avaient brûlé.
Ah oui.
Voilà. Donc je me dis que si chacun, si tout le monde était équipé d'un extincteur dans les voitures, ben on pourrait déjà limiter ce genre de problème.
Oui.
Voilà.
Il y a aussi cet aspect équipement effectivement à avoir en tête. Comme d'habitude pour chaque start-up proposition, on a notre coach qui s'est penché un petit peu sur votre proposition, David Smadja. On commence comme d'habitude par des quelques recommandations. Ce que vous avez noté.
Alors moi déjà, je trouve que l'innovation est fabuleuse. Moi ce que j'aime, c'est l'innovation de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, ces innovations sont en prise directe avec les besoins concrets des pompiers et des professionnels de sécurité. Donc ça, je trouve ça évidemment remarquable. Cette société a beaucoup de points forts. Évidemment, déjà la technologie, j'imagine que vous avez breveté la technologie, notamment celle que vous appelez Choc Impact. Et évidemment, je trouve qu'à la différence des boules extinctrices qui peuvent rebondir, là, vous avez quand même réglé une problématique qui est de taille. Et surtout, c'est un produit qui est très grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je connaissais évidemment le produit, mais c'est vrai que vous pouvez cibler des maisons, vous pouvez cibler des ERP, des restaurants, donc c'est B2B, B2C, et on est quand même dans une dynamique où l'usage est simple, et en plus de ça, il est visuel. Donc je trouve que le produit est remarquable.
Donc beaucoup de force forcément, d'ailleurs Jacques Pitou, voilà, ça faisait partie de la logique de se dire, bon,
on répond à quelque chose de concret, il faut proposer quelque chose d'efficace.
Ouais, enfin moi tout simplement j'ai pris conscience, alors vraiment sur un autre secteur d'activité puisque c'était les drones, mais en prenant du temps et en passant beaucoup de temps avec ces pompiers, et quand j'ai su qu'il y avait un incendie domestique tout début en France, au départ je croyais qu'on m'avait, donné une blague, quoi. Et c'est pas du tout le cas. Donc après nous sommes procurés tous les chiffres des ministères et c'est juste quelque chose d'incroyable parce que en fait ce que j'aime bien dire, c'est devenu pour moi un peu mon emblème, c'est en France, on vous impose un détecteur de fumée. Ça, c'est une obligation.
Ouais.
Qui dit fumée, dit feu. Par contre, on ne vous impose pas le moyen de l'éteindre, d'avoir le moyen de l'éteindre. Donc, et je dis que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a un énorme message à faire passer. Je ne vais pas citer, hein, mais on commence à travailler certaines assurances. Qui font de très grosses opérations avec Blockfire. Et oui, parce qu'on est là non seulement pour sauver des vies, sauver des biens, mais aussi leur faire gagner de l'argent aux assureurs. Si on fait gagner de l'argent aux assureurs, on se met à rêver que la cotisation d'assurance pour un bien immobilier devrait diminuer.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ça le message qu'il faut faire passer. Alors, honnêtement, vous voyez, je le dis tout le temps, je suis là aujourd'hui, je parle de ma société, de Blockfire, mais alors là, c'est vraiment... Mais quel que soit l'extincteur, moi je dis à tout le monde, équipez-vous. Voilà, c'est ça mon message.
Très bien, c'est clair, effectivement, faut l'avoir en tête, évidemment. Mmh. David, je me tourne à nouveau vers toi, donc tu as identifié notamment un aspect de croissance déjà démontré, mais
exactement.
Comme toute entreprise, il y a aussi des besoins, donc comment tu verrais les choses.
Vous dépassez déjà les 2 millions d'euros de chiffres, vous êtes une dizaine aujourd'hui, si j'ai bien compris... Et vous avez quoi, vendu plus de 5000 unités en 2025?
2025.
Donc il y a quand même une belle croissance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour développer et notamment répondre à la demande des produits en France, il faut en avoir les moyens. Donc je sais que vous avez déjà levé des fonds auprès de pools d'investisseurs et notamment reconnus. Je pense que la prochaine étape pour vous, c'est de vous tourner vers des acteurs industriels et aller chercher effectivement des fonds qui sont beaucoup plus spécialisés sur votre secteur d'activité. D'ailleurs, on est au carrefour entre ce qu'on appelle le hardware, parce qu'on a quelque chose qui se tient, c'est pas du logiciel. Donc c'est vrai qu'on doit cibler des investisseurs particuliers. Il y en a quand même quelques-uns aujourd'hui sur le marché, et je pensais notamment à UI Investissement, Carista, Definvest, et c'est vrai que en plus de ces investisseurs-là qui ont l'habitude d'investir dans ce type de projet, il faut toujours aller chercher du dispositif public. J'imagine que vous êtes déjà tourné vers BPI, mais notamment le plan France 2030 a encore bien des choses à nous offrir. Donc je pense que ce sont quelques moyens d'aller chercher du financement complémentaire pour la nouvelle année 2026.
Ça fait partie des objectifs, et puis aussi un gros objectif pour vous, c'est la norme NF.
Oui, alors en fait,
permettrait d'avancer.
Un double objectif sur l'année 2026. On va plutôt parler de fin 2026 parce que malheureusement il y a des déclins qui sont incompressibles. Donc deux choses, c'est la norme NF. Alors la norme NF, nous aurions pu la demander déjà il y a longtemps, mais j'ai fait le pari d'ouvrir un site de production en France. Donc ça y est, on y travaille de façon très très sérieuse.
Ouais.
Les terrains ont été achetés, enfin tout est déjà en œuvre et on devrait être opérationnel vers octobre-novembre 2026.
Ce sera où ?
À Nogaro, je suis né dans le Gers. Nogaro, il y a un circuit automobile pour ceux qui connaissent.
Ouais.
Et juste à l'entrée de ce circuit automobile, vous avez des terrains. Et nous venons d'acquérir deux terrains sur lesquels nous allons faire pousser un bâtiment de 1200 m² au départ pour faire de la production française.
Super. Voilà. Parfait.
Et donc, dans ces cas-là, aller chercher le NF. Alors, deux choses, parce que...
Ça prend du temps, forcément. Ça prend combien de temps,
puis, moi, je pars du principe que le Made in France a le vent en poupe et il faut s'en servir. Et derrière, on a encore quelques barrières vis-à-vis de certaines administrations ou autres du fait qu'on ne soit pas NF. Le NF, c'est la première des conditions. Moi, on m'a expliqué, si tu veux qu'un jour ton extincteur soit reconnu comme un extincteur, déjà, la première étape, c'est d'être NF. Alors bon, on travaille déjà avec certains organismes très connus, comme le CNPP, des choses comme ça. Et voilà, mais volontairement, je n'avais pas voulu entamer toutes ces démarches tant qu'on ne le produisait pas en France.
Eh bien, parfait. Merci à vous, Jacques Pitou. Vous restez bien sûr avec nous. La France bouge jusqu'à 22h sur Europe 1. On revient juste après cette première pause musicale. Une nouveauté, Seyana Spyro, Die on this Hill. Yana Spyro, Die on this Hill sur Europe 1.
Europe 1.
La France bouge. 21h, 22h.
Aurélien Fleureau.
Une musique de Hans Zimmer, Backdraft, film culte de Ron Howard, sorti en 1991, histoire de pompiers de Chicago qui se battent contre des incendies criminels. Émission consacrée ce soir aux solutions, aux innovations qui permettent de détecter, d'éteindre un départ de feu, à se protéger des incendies, par exemple avec les boules extinctrices de Blockfire International que Jacques Pitou vient de nous présenter. À mes côtés pour cette émission, bien sûr, le coach du soir, David Smadja, le fondateur du cabinet Milestone Avocat. Et puis on va commencer cette deuxième partie avec cette question: quoi faire quand un feu se déclare? Est-ce que l'on a les bons réflexes? Eh bien, Diana Ngoma vous a posé la question.
Alors, en cas d'incendie, par exemple, dans mon entreprise, moi, honnêtement, je ne sais pas. J'avoue que je ne connais pas le protocole à suivre. Je suppose qu'il faut certainement se diriger vers les issues de secours, ne pas encombrer les sorties principales, évidemment. Autrement, je saurais pas vraiment quoi faire. C'est-à-dire que ce que je penserais à faire, c'est les issues de secours. On se dirige vers les issues de secours, on essaye de pas paniquer, et puis on appelle les secours. Voilà. Puis je pense qu'en entreprise, par exemple, il y a toute la sécurité incendie et les responsables de la sécurité incendie qui sont là aussi pour nous aiguiller, donc voilà, je compte sur eux.
Alors, le protocole quand il y a des incendies, je le connais pas exactement. Je sais, c'est un handicap, mais Spontanément comme ça, ben, je dirais que c'est de diriger vers la sortie, suivre les instructions s'il y a des personnes qui connaissent mieux que moi. Voilà, donc c'est un petit peu la solution, mais je vais m'y intéresser du coup.
Ça m'est jamais arrivé, mais il me semble qu'il faut éloigner tout ce qui est combustible et appeler immédiatement, enfin d'abord je crois immédiatement appeler les pompiers au 18. Et ensuite sortir du bâtiment si on est dans un immeuble. Tout dépend si on est au travail ou chez soi. Après, on peut avoir des détecteurs de fumée à la maison, du coup, ce qui nous signale et qui fait que on peut du coup alerter peut-être les voisins. Enfin voilà.
Voilà, on sent qu'il y a besoin de pédagogie sur ce sujet, forcément. Avant d'être dans le détail de votre start-up, d'ailleurs, Dimitri Bernard, fondateur de AeroXense, ça vous inspire quoi, ce type de réaction? Vous dire qu'effectivement, il y a besoin d'explications, de pédagogie, d'avoir cela en tête?
Alors moi je trouve ça assez confondant d'entendre ce type de propos, mais je suis pas vraiment étonné, mais il existe déjà une réglementation en vigueur où les chefs d'entreprise aujourd'hui ont l'obligation de former leurs salariés à la manipulation des extincteurs, je crois que c'est 2 fois par an de façon obligatoire. Ah oui. Et ensuite ils ont l'obligation de faire des exercices d'évacuation, je crois que c'est 1 fois par an, me semble-t-il, de façon également obligatoire. Et si ces exercices avaient été faits, si on avait donc respecté cette réglementation, bah, ils sauraient effectivement comment faire, aussi bien comment manipuler que comment évacuer.
Parce que les exercices, ça c'est quelque chose d'assez classique, on a l'impression, comme dans les entreprises.
Oui,
les extincteurs, moins pour le coup, j'ai l'impression aussi. Que,
bah, ouais. Vous avez des... Alors les extincteurs sont bien sûr obligatoires en ERT.
Oui, mais savoir comment s'en servir, c'est ça.
Bah, il faut y être effectivement confronté, c'est pour ça que normalement on fait des formations, et n'importe quel salarié d'une structure doit être formé à la manipulation d'extincteurs pour sauver sa vie, déjà, éventuellement sauver la vie de ses collègues et sauver le bâtiment aussi accessoirement, parce que c'est l'outil de travail. Et ben, on se rend compte que la réglementation n'est pas vraiment appliquée. Et ça, c'est les acteurs de la protection incendie qui prodiguent, on va dire, ces formations, les proposent, bien évidemment, hein, c'est le devoir de conseil. Et on se rend compte que dans la réalité du terrain, bon, ben, c'est loin d'être fait.
Effectivement. Allez, on va découvrir ce que vous proposez comme innovation, AeroXense.
Europe 1, la start-up de la France bouge.
Et donc, c'est à vous, Dimitri Bernard, donc pour une start-up créée en 2024, du côté de, à proximité, en tout cas, de Perpignan. Et vous aussi, vous présentez un peu comme un autodidacte. Vous avez eu pas mal de différentes expériences. Donc, si on va pas tout dire, mais on a parlé de vente, de marketing digital, de photovoltaïque aussi, à un moment où c'est devenu compliqué. Donc, vous avez testé pas mal de choses.
Oui.
Et justement, malgré cette déconvenue sur le photovoltaïque qui était forcément pas liée à ce que vous aviez développé, mais vous êtes dit, bon, malgré tout, quand on a des idées, des envies, on se remet à penser à créer une entreprise?
Bah, en fait, quand on est entrepreneur dans l'âme, finalement, ça nous rattrape. Mais effectivement, sur le photovoltaïque, moi, j'ai vécu la déconvenue du moratoire photovoltaïque en 2010. Il y a eu 15 000 emplois détruits à l'époque. La filière photovoltaïque, on l'a mis tout simplement par terre, par décision politique. Bon, on achetait des panneaux chinois en masse, donc ça peut se comprendre. Mais
évidemment,
j'ai fait partie des chefs d'entreprise qui avait un carnet de commandes caduque du jour au lendemain.
Ouais, c'est ça, donc ça aurait pu vous échauder sur la création d'entreprise.
J'ai été totalement échaudé pendant 10 ans.
Voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes devenu salarié, du coup.
Oui, je suis redevenu salarié, directeur régional, directeur commercial dans plusieurs structures. Et puis au bout d'un moment, effectivement, ça m'a trop chauffé parce que j'ai vu qu'il y avait des choses à faire, des actions à mener. Et j'ai créé ma structure en 2024.
Alors justement, avant de revenir sur tous ces éléments-là, si on se dit, voilà, vous avez une minute pour expliquer à nos auditeurs ce qu'est désormais AeroXense, c'est maintenant, c'est l'heure du pitch. Allez-y. Allez.
Alors, je vais commencer par un chiffre, le même chiffre que Jacques Pitou a pris tout à l'heure, c'est 250 000 incendies domestiques en France chaque année, qui fait un incendie dans toutes les 2 minutes. Donc déjà, on parle de ce constat. Et donc, AeroXense, on s'est spécialisé dans la protection des petits volumes, donc les coffrets, les tableaux et les armoires électriques. Notre technologie brevetée repose sur un aérosol condensé. Et le produit, en fait, il est extrêmement léger, extrêmement compact. Le produit que j'ai en main, il fait 10 cm par 2 cm par 2 cm, pour ceux qui peuvent nous voir. Il s'installe extrêmement facilement, en 5 secondes, on le positionne dans le tableau. On a un autocollant double face en partie sur le dessous du dispositif, on l'installe. On est sans pression, sans eau, sans batterie, sans électricité, garantie 5 ans sans aucune maintenance. Donc c'est très accessible. La gamme aujourd'hui est assez large. On a une gamme pour le particulier, on a une gamme donc pour le professionnel. Et on protège de 50 litres jusqu'à 1100 litres. Et on peut même connecter les dispositifs entre eux pour protéger 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, 4 mètres cubes par exemple pour les professionnels. Le fonctionnement de notre système, ça fonctionne sur un câble thermosensible.
Je vous laisse déborder, il n'y a pas de problème, allons-y.
Ça fonctionne, donc c'est un câble thermosensible de détection linéaire qui va détecter donc une élévation anormale de la température dans le coffret.
C'est ça.
Et qui va activer l'aérosol condensé qui, lui, va libérer un brouillard sec qui va inonder, on va dire, le coffret. Le feu va être instantanément éteint.
D'accord. Alors, juste pour l'image, vous pouvez le mettre au niveau du micro. Comme ça, on le verra bien pour Europe1.fr ou Europe1 TV. Comme ça, on se rend compte effectivement que, ben voilà, on peut l'installer à différents endroits. Donc, c'est vraiment venu d'une expérience dans laquelle vous aviez commencé à travailler dans ce secteur-là et vous aviez vu des manières d'améliorer l'existant, de proposer quelque chose de différent.
Absolument. En fait, pour être totalement transparent, chez mon ancien employeur chez qui j'étais directeur commercial, j'ai développé et mis en place le produit de mon concurrent.
Oui.
Donc j'ai commencé comme cela et le produit de mon concurrent, c'était un faux fabricant suédois qui fait fabriquer en Chine. Il se disait fabricant, donc je l'ai découvert. Ça m'a un petit peu échaudé de se déclarer fabricant européen alors qu'on était fabricant chinois. Et en plus, la gamme était très restreinte et donc répondait pas finalement à toutes les demandes. En fait, on n'avait pas cette partie câble installé directement sur les dispositifs.
D'accord.
Et ce qui fait que dans un tableau électrique qui fait par exemple 25 cm pour un tableau de particulier ou même d'un petit ERP 5e catégorie,
ouais,
qui fait souvent 25, alors les Agar, les Schneider, les Legrand, j'en cite 3, on va dire que si vous installez juste un dispositif qui fait 10 cm, on est vite limité parce que le feu peut passer à droite et à gauche et on peut avoir un problème de détection. Donc je me suis dit, il faut quelque chose de plus modulaire, il faut proposer quelque chose clé en main directement au client, il ne faut pas leur demander de faire du montage et puis surtout, il faut essayer de faire du Made in France parce que c'est possible sur ce type de produit, on peut le faire. Il y a des choses que c'est difficile à faire en France parce que peut-être qu'on manque aussi d'équipementiers,
ouais,
ou de savoir-faire. Là, en l'occurrence, c'est
ça,
possible.
Ça existe.
Donc ouais, on est fabricant aujourd'hui de nos solutions sur Perpignan.
Avec du, vous le disiez, 90-95% made in France, parce qu'il y a juste une petite partie qui n'est pas faite en France, c'est ça?
Oui, la difficulté, c'est les câbles thermosensibles.
C'est ça, justement, c'est ce que vous disiez, voilà, c'est ça.
Ces câbles-là, en fait, on a des grosses difficultés, j'ai pas pu les sourcer en Europe.
Non, ouais, c'est ça, si ça n'existe pas.
Non.
Voilà, donc forcément.
En fait, on n'a pas pu le savoir-faire, puisque à la base, ça, c'est de la technologie qui vient des feux d'artifice, les artificiers.
D'accord.
On avait des gros artificiers en France, on avait une technologie, un savoir-faire, sauf que petit à petit, c'est érodé, et que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, où il y avait un gros savoir-faire, le fabrique plus.
Effectivement, et donc pour vous, comme un petit peu avec Jacques Pitou avant pour Blockfire International, c'est à la fois donc les particuliers et puis des entreprises, des professionnels, il y a un vrai développement aussi B2B.
Alors, nous, on a pris le pas de développer vraiment la partie professionnelle.
C'est ça. Hein.
Donc les revendeurs de la protection incendie, bien sûr, sont clients, les prévisionnistes, les experts de la protection incendie. On a les distributeurs de matériel électrique.
Ouais.
Qui donne une belle traction aujourd'hui sur le produit. Donc c'est les électriciens finalement, les mainteneurs qui installent le produit. On fait déjà beaucoup d'exports parce que 50% de notre CA de toute façon c'est de l'export.
Ok.
On est présent
en Europe principalement ou pas?
Non. On est présent en Asie. Par exemple, on est à Taïwan, on est présent en Afrique, sur 3 destinations, 3 pays, on est présent en Amérique latine depuis peu, en Argentine.
Des besoins, ouais.
Et puis bien sûr en Europe occidentale.
Et la commercialisation grand public, là, c'est ce qui va vous occuper pour 2026
Exactement, ça arrive, vous avez les bonnes informations.
Ça arrive.
L'objectif 2026, effectivement, c'est d'être présent sur les différentes marketplaces et sur le online. Actuellement, volontairement, on a laissé la place, parce qu'on voulait y aller à un moment, on aurait une gamme modulaire et on aurait aussi un produit destiné spécifiquement pour particuliers. Donc là, le produit que vous voyez là, c'est un produit qui fait quand même partie de la gamme professionnelle.
D'accord.
On a un produit spécifique particulier qui arrive le mois prochain et c'est pour ça qu'on va aller sur la partie marketplace, le online, sur ce produit particulier, puisqu'on aura bien dissocié les deux, le particulier et la gamme professionnelle.
Très bien. Notre coach, David Smadja, ton regard
Je suis conquis parce que je pense encore une fois que c'est du bon sens industriel.
Ouais.
Donc c'est un produit qui est simple à comprendre. Il a l'air d'être relativement simple à poser, et pourtant, à l'intérieur, c'est pas si simple. Donc j'aime bien le contraste. J'aime bien le contraste entre la simplicité du produit et la techno à l'intérieur, et la recherche et le développement que vous avez dû enclencher pour arriver à cette innovation. Donc je trouve que c'est un produit à très fort pouvoir de déploiement. Mais quelle va être la différence entre le produit pour les consommateurs en B2C et celui-ci?
Alors, la dimension du produit, principalement sur classe, ça fait 10 cm. Le produit particulier va faire 67 mm de mémoire. Et surtout, c'est la charge d'agent extincteur qui va diminuer. Puisque justement, les professionnels vont utiliser les produits pour protéger des gros coffrets, des armoires industrielles, professionnelles. Et on a même des options qui arrivent, l'alimentation électrique, le report de statut, la communication radio qu'on va greffer en fait dessus. Ça, c'est pour les pros. Et le particulier, lui, il a un tout petit coffret. Un coffret qui va faire 20 litres, 30 litres, 40 litres. Et donc là, on aura un produit vraiment dédié pour ce petit coffret.
Et peut-être se redire un mot sur donc, l'aérosol condensé, sur le fonctionnement. Vous l'avez un petit peu expliqué dans le pitch, mais pour qu'on s'imagine, justement, avec l'aspect grand public pour chez soi, ce que ça a fait concrètement.
Alors déjà, pour le schématiser, ça ressemble à un bloc de savon.
Ouais.
on schématise, bon, un bloc de paraffine, mais plus un bloc de savon. Donc il est condensé parce qu'il est compacté. Mm-hmm. En gros, on le compacte à peu près à 350 kg par mètre cube. L'agent extincteur qui se trouve dedans, c'est du potassium et du strontium. Potassium, c'est une charge, on va dire, qui va permettre de pousser le produit. C'est le comburant, ça va permettre de pousser le produit et de créer une expansion, on va dire, dans le coffret. Et on a ajouté du strontium pour éviter les résidus, parce que le produit est totalement sans résidus, et ce qui fait que, bah, le tableau électrique derrière, il est pas du tout abîmé. On peut repartir immédiatement. Et sous le contact de la chaleur, cet aérosol qui est solide se transforme à l'état gazeux.
Ouais, c'est ça.
Et donc, on a une fumée blanchâtre qui se noie qui dans l'armoire ou dans le coffret. Et cette fumée, pour faire très très simple, en gros, elle crée une couche protectrice autour des molécules d'oxygène.
Okay.
Et dans un triangle de feu, on a besoin du comburant, on a besoin de l'oxygène, on va dire, pour que la flamme perdure. Si vous supprimez l'oxygène, c'est le principe de la couverture anti-feu. Hein. Vous mettez une couverture, un torchon mouillé sur une friteuse, le feu s'arrête parce qu'on a supprimé l'oxygène.
C'est ça.
Voilà, c'est le même principe. L'oxygène n'est pas supprimé parce que c'est respirable, on peut rester dans la pièce ou à côté. Mais en revanche, le côté comburant de l'oxygène, lui, il a disparu. Donc le feu est éteint instantanément.
Très clair. Et David, on poursuit aussi sur ces aspects de justement maintenant des besoins identifiés pour continuer à grandir, notamment en termes de financement.
Comme d'habitude, hein, le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc c'est vrai qu'à mon avis, pour aller chercher de nouveaux marchés, et notamment le marché du particulier, c'est un marché, à mon avis, gigantesque. Donc il faut nécessairement avoir une stratégie claire, et je pense que 2026, c'est le bon moment pour l'avoir. Donc c'est vrai qu'il va falloir commencer à cartographier les bons investisseurs. Donc c'est vrai que la société a été créée, je crois, en 2024. Donc vous restez une jeune structure, donc il faut plutôt s'orienter vers des fonds qu'on appelle plutôt early stage et qui ont l'habitude de financer des projets relativement récents, voire même aujourd'hui, je pense, au projet impact. Parce que finalement... que ce soit aussi, évidemment, vous, Monsieur Pitou, vous avez des sociétés impact aujourd'hui. Vous avez un impact positif sur la société. Et évidemment, aujourd'hui, c'est important. Et vous avez des financeurs qui, eux, voire même des corporate ventures, hein, qui, aujourd'hui, eux, veulent miser avant tout sur ce type de société à impact. Donc, pour moi, c'est avant tout structurer aussi une stratégie. Et la stratégie, ça va être prouver l'attractivité commerciale, mais je pense qu'on y est déjà. Et aussi, je crois, préparer les futurs marchés, parce que j'imagine que vous souhaitez aussi aller vous étendre à l'international. J'avais cru comprendre qu'il y avait peut-être le marché US qui était un marché, un potentiellement gros marché. Et évidemment, je me demande si c'est pas un sujet où la fabrication locale sera, à mon avis, importante, comme on sait que c'est un marché qui a mis qu'on crée sur place. Évidemment, ça nécessite des financements, et je pense que ça, il faut à présent l'intégrer dans votre business plan, justement, pour montrer l'attractivité. Ça, c'est un vrai sujet qui est apprécié par les investisseurs, de savoir que vous pensez déjà à l'internationalisation du projet.
Le marché américain, Dimitri, c'est un des projets aussi. Alors, peut-être pas tout faire en 2026, il faut prendre son temps.
Non, mais... ce ne sera pas 2026.
Oui, c'est ça.
Ce ne sera pas 2026. Là, 2026-2027, on va consolider, on va dire, notre présence en France. Et bien sûr, dès la mars-avril 2027, on sera déjà donc, en Espagne, en Italie et en France en GSB. Donc, ça va aller quand même assez très, très vite sur cette partie-là. Non, par contre, pour aller sur le marché américain, effectivement, on prévoit une levée de fonds. Plus fin 2027, on aura un peu plus de recul. On arrivera un petit peu plus costaud aussi envers cette levée. C'est pour ça qu'on a écarté le early stage.
Bien sûr.
Moi, j'ai autofinancé beaucoup de choses de mon côté, et on est capable aujourd'hui de développer, on va dire, l'Europe orientale, occidentale, pardon, sans trop de problèmes. En revanche, pour aller sur le marché américain, et notamment la GSB américaine, bon, là, c'est pas du tout le même cas de figure. Les volumes sont extraordinaires.
Il faut forcément partir sur.
Il faut y aller avec au moins un million d'euros de trésorerie, sinon ça sert à rien. Enfin, c'est pas tenable. Et il faut fabriquer effectivement sur place. Il faut faire du made in America. Made in America, sinon on va se faire bouder par les consommateurs. Donc, c'est prévu effectivement pour 2028. On l'espère si le plan de marche fonctionne comme il faut.
Dernier mot rapide sur l'aspect certification. Vous aussi, c'est un sujet forcément. Ça prend du temps, mais c'est.
C'est un gros sujet. Ouais. Ça prend du temps. Et en plus, on en parlait avec Jacques en off juste avant. Il y a un vide normatif. C'est-à-dire que on a un produit innovant et ce qui fait qu'aujourd'hui il n'est pas vraiment reconnu parce qu'on n'a pas de référentiel technique.
Ça complexifie encore plus la demande, oui.
Bah, puisqu'il n'y a pas de référentiel technique en face. Moi j'ai un dossier qui est posé au CNPP par exemple depuis un an. Il est un peu sous la pile puisque ils vont devoir en gros créer presque un référentiel, l'adapter pour un produit. C'est compliqué.
Normalement c'est le genre de dossier qui aurait pu être réglé en quelques mois entre guillemets quand on est sur un cadre un peu plus connu.
En 6-8 mois ça aurait pu se faire.
Ouais,
et là on voit bien que ça bloque. Pour le marché américain il faudrait par exemple la UL 2775, mais pour avoir la UL 2775, pour rentrer juste dans un tout petit détail, ce type de produit, il faudrait le tester dans un environnement de test de 100 mètres cubes.
D'accord. Donc faut forcément
moi, je protège les armoires.
Ouais, c'est ça. Donc c'est
je
ne
peux pas le faire tester dans
oui,
un environnement de 100 mètres cubes. Et là, c'est bête et méchant. Hein. Le test, c'est 100 mètres cubes. Bah, ah oui. Donc, on ne peut pas me donner l'assertif. Donc, vous voyez, on est confronté à ça. Il faut qu'ils bougent leur référentiel
c'est ça.
Pour pouvoir normer, certifier nos dispositifs.
Quelle idée d'innover aussi, vraiment.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ça l'innovation. C'est, il faut bousculer les normes.
Bon, ben, merci à vous, Dimitri Bernard. Vous restez bien évidemment avec nous également. Juste avant la dernière partie de notre émission, nouvelle pause musicale sur Europe 1, La France bouge. Je reviens juste après. Michel Berger, Mademoiselle Chang. Mademoiselle Cheng, Michel Berger sur Europe 1 avant de poursuivre notre émission. À ne pas manquer demain, 11h30, 13h, Elliot Deval vous donne rendez-vous pour commenter l'actualité, débattre avec ses chroniqueurs et ses invités. 11h30, 13h, c'est le vendredi. Et c'est 11h, 13h les samedis et dimanches pour Elliot Deval et vous.
Europe 1.
La France bouge. 21h, 22h.
Aurélien Fleureau.
Feu Notre-Dame.
Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir deux feux à gérer.
Extrait bien sûr du film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano en 2022, suite évidemment à l'incendie qui a détruit une partie de la cathédrale. C'était en avril 2019. Nous poursuivons notre émission consacrée ce soir aux solutions, aux innovations qui permettent de détecter ou d'éteindre un départ de feu. Détecter les feux de forêt grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce que propose Pioneer.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
Rebonjour Mathéo Lostanlen, merci d'être avec nous. Vous avez 33 ans, vous êtes né à Nîmes, vous avez grandi à Madagascar, puis direction Bordeaux. Je vais vite, hein, je fais en express. Vous avez fait notamment des études en école d'ingénieur en télécommunication. Et on peut dire que les algorithmes, l'IA, ont rapidement fait partie de vos premiers métiers.
Oui, complètement, dès le début. Au début, on n'utilisait pas de l'IA directement parce que j'ai eu la mauvaise chance d'arriver juste après le buzz de l'IA. En gros, dans le grand public, on entend parler depuis moins longtemps depuis ChatGPT.
C'est ça.
Dans mon métier, c'est arrivé en 2012, la révolution.
Oui, on parlait parfois de machine learning, des choses un peu...
Voilà, je suis arrivé en école très peu de temps après, donc on n'était pas encore formé à ça. Donc je me suis formé de moi-même en arrivant dans mes premières entreprises.
C'est ça, donc c'est voilà, un domaine qui vous a intéressé. Et ensuite, pour justement arriver rapidement à Pioneer, comment vous est venue cette idée que l'on va détailler dans quelques secondes.
Ouais, alors c'est pas mon idée.
Oui, c'est vrai, vous avez rejoint Louis, c'est vrai.
À la base, j'étais dans une autre association parisienne qui s'appelle Data for Good.
Ouais.
Et le principe de Data for Good, c'est de mettre en relation des porteurs de projets et des bénévoles qui ont envie de s'investir au service de l'intérêt général. On est une grande génération en quête de sens et qui a envie de faire des choses à but utile. Je sais pas comment dire ça.
Ouais,
et on travaillait sur des projets le soir et le week-end. Moi, j'ai fait un projet de santé, par exemple, avec Data for Good. Et la deuxième saison de Data for Good, c'est le format, c'est 3 mois pendant que sur lequel les bénévoles vont travailler sur soit développer une nouvelle fonctionnalité, soit améliorer de l'existant. Et il y a une des personnes avec qui j'avais déjà travaillé, François Guillaume, qui est venu proposer cette idée. Et du coup, je l'ai rejoint, on a créé le truc de zéro. Et à la fin des 3 mois, on s'est dit que c'était un peu bête, on avait un code sur Internet. Évidemment, les pompiers ne vont pas aller sur Internet chercher le code. Donc, si on veut vraiment servir à quelque chose, il faut aller plus loin et créer une solution de A à Z. Donc, on a créé notre asso, du coup, en avril 2020. En plein Covid, donc on avait tous un peu de temps à accorder à ça, donc c'est plutôt bien.
Avoir des côtés positifs sur certains aspects. Justement, pour rentrer dans le concret sur Pioneer, en une minute, comment vous pourriez le présenter à nos auditeurs? Donc vous l'avez dit, c'est une association Pioneer. Ouais. Voilà, vous avez une minute.
Oui, donc nous on dit qu'on est une solution ouverte de détection précoce de départ de feux de forêt. En gros, il y a le réchauffement climatique, je vous ne cache rien, à cause du réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus de départs de feux de forêt partout dans le monde. Il y a possibilité d'atténuer leur risque, parce que d'atténuer la fréquence, parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'origine humaine, notamment en France, on dit que c'est 9 sur 10 à peu près. Mais après ça, c'est assez logique aussi notre solution, c'est que le feu, plus il est détecté tôt, plus on va limiter son impact. Donc l'idée, c'est de mettre des stations de détection dans des points hauts en forêt. Donc ça peut être un point haut, ça peut être une tour télécom, une éolienne, quoi que ce soit, et sur laquelle on va installer principalement donc des caméras et un micro-ordinateur, un Raspberry Pi pour ceux qui connaissent. Ce micro-ordinateur va contrôler les caméras pour capturer des images de l'environnement à intervalles de temps réguliers, actuellement c'est toutes les 30 secondes, et l'analyser localement avec une IA. Et en cas de détection d'une fumée suspecte, il va transférer un message d'alerte et les images associées, ce qui va permettre aux pompiers très rapidement de valider, d'infirmer ou de confirmer la présence du feu, mais aussi de commencer à récolter de l'information pour agir au plus vite, toujours dans cette quête de gagner un maximum de temps.
Eh bien, parfait. Donc évidemment, ce que l'on comprend, c'est que ça permet un travail en temps réel avec les pompiers. Ça, c'est arrivé petit à petit dans la manière de faire évoluer la solution, où les stations, forcément, dès le début, elles avaient cet usage d'avertir très rapidement.
Non, dès le début, on l'a pensé comme ça. On a assez bien fait les choses, mine de rien. On a directement été faire des entretiens utilisateurs avec les différents pompiers.
C'est pas que visualiser, observer, c'est aussi prévenir.
Ouais, voilà. Exactement. Et du coup, on a rencontré pas mal de pompiers, notamment les pompiers de l'Ardèche, le 10-07, qui a beaucoup aimé la solution dès le début, qui nous a dit, bah, dès que vous êtes prêts, vous pouvez venir chez nous, installer la solution. Et évidemment, entre jouer dans sa chambre à Paris avec un peu de matériel et le terrain, il y a un univers.
Et ça s'est passé comment, justement? Ça a pris combien de temps pour découvrir de manière très concrète comment la solution se déployait?
On a mis un moment, surtout que c'était un projet associatif oui. complètement bénévole au début, où je travaillais le soir et le week-end, enfin moi et les autres, oui, ça avançait assez doucement.
En plus de
Du coup, on a mis au moins deux ans à avoir une solution un peu stable.
En tout cas, dès que vous alliez sur le terrain, ça permettait
ça apportait énormément. Au début, on a des problèmes de communication. La première installation qu'on a faite, on installe le système. Deux semaines après, on perd le signal, il faut y retourner. On était là. Quand il faut redébrancher un truc dans sa chambre, c'est très facile. Quand il faut monter en haut d'une montagne en Ardèche, c'est un peu plus complexe. Mais bon, c'est les joies de la R&D.
Et là, du coup, maintenant, vous avez différents brigades, j'allais dire, de pompiers qui, pour qui c'est un réflexe de se dire, on sait qu'on peut être alerté grâce à ces stations. Ça se passe comment, notamment la communication? Ils reçoivent de quelle manière une alerte?
On travaille du coup avec plusieurs départements. Au début, on voulait pas trop se diffuser parce que le temps d'avoir une solution stable. Maintenant qu'elle est stable, on est prêt à le faire et à grandir et à se déployer aujourd'hui en France et même on a un gros partenariat avec le Chili actuellement, donc à se déployer à l'international. Et sur la partie alerte, du coup, il y a une plateforme de détection. Les pompiers en France, ils sont découpés à l'échelle départementale, donc les SDIS, départementaux d'incendie et secours.
C'est ça.
Et chaque département a un peu ses spécificités. Du coup, nous, on a proposé plusieurs solutions pour que chaque SDIS puisse trouver la sienne et on discute avec eux. Nous, on adore travailler comme ça. On leur fait tester quelque chose. Ils nous disent on aimerait plus ça. On voit si c'est possible et on adapte. Donc, il y en a qui ont un écran clignotant dans la salle de contrôle. Il y en a qui reçoivent un signal par une messagerie, d'autres un signal sonore. Et on s'adapte un peu comme ça aux besoins, en fonction de ce qui est possible de faire.
D'accord. Et donc, vous avez fait le choix d'une association, en vous disant c'est pas forcément le fait de ne pas vouloir commercialiser, c'est parce que c'est à destination des pompiers, ou est-ce que vous avez dit c'est plus cohérent finalement pour nous de rester une association?
Au début, on l'a fait parce qu'on est né dans une autre association et donc ça paraît la suite logique. Ouais. Et c'était plus un projet le soir et le week-end. À un moment, ça aurait pu se poser la question de créer une société. Il y a des sociétés qui font la même chose et ça aurait pu être complètement cohérent. Mais en fait, on s'est rendu compte que nous, notre but, c'est une mission philanthropique finalement. Ce qu'on veut, c'est réduire l'impact des feux de forêt à l'échelle mondiale. Et à notre sens, rester une association, c'est la façon la plus efficace de le faire. Si demain, je veux me déployer au Chili, j'ai pas besoin de monter une structure au Chili. Je trouve un partenaire là-bas. Ouais. Du moment qu'il valide ma façon de travailler, donc c'est-à-dire mise en commun de la donnée, donc tout notre code est en accès libre sur Internet, donc mise en commun du code, de la donnée, et qui va proposer des prix convenables. Nous, on est prêt à travailler avec tout le monde, et du coup, ça permet de se déployer très facilement à l'échelle mondiale, et on pense que pour réduire l'impact, c'est une façon pertinente. Ça nous permet aussi de travailler avec des écoles d'ingénieurs, des labos de recherche assez facilement.
Un accès qui n'est pas le même qu'effectivement...
En tant qu'ingénieur, c'est aussi très agréable. Du coup, c'est collaboration très recherche qu'on peut faire très, très facilement avec tout le monde.
Et donc là, beaucoup. Pour l'instant, vous êtes 11, c'est ça, dans l'association, 2 qui travaillent vraiment à temps plein.
C'est ça.
Et avec l'idée de se développer, de faire grandir un petit peu les choses, en restant une association, on l'a compris.
Oui, complètement. L'idée, c'est de se développer. Initialement, du coup, on travaillait qu'à titre bénévole le soir et le week-end. On a bien compris que pour gérer le déploiement terrain et gérer les partenariats et la communauté de bénévoles, il fallait des gens au quotidien. Donc l'idée, ce serait de salarier une équipe cœur, c'est dur à chiffrer exactement, 4, 5, 6 personnes, j'en sais rien, qui va animer du coup cette communauté. Aujourd'hui, notre communauté, elle est très franco-française, il y a quelques collaborateurs étrangers, mais on aimerait justement développer ça énormément. Pour du coup avoir ce qui se fait beaucoup dans le monde de l'open source, des gens qui vont coder 2 heures à droite à gauche dans tous les pays du monde, et on pense que tous ensemble on pourrait faire ça.
Avec cet objectif,
ça, il faut des gens pour gérer ça au quotidien.
Et là, justement, pour en revenir au premier retour de la part des pompiers, il y a des exemples que vous pourriez citer sur la manière dont ça s'est déployé, mis en place là, récemment.
Oui, on s'est déployé à Fontainebleau cet été. On avait fait un test avec eux l'année d'avant, donc ils nous avaient comparé avec d'autres solutions. Et à la fin, ils ont décidé de nous retenir, donc une grande fierté pour nous. Et on a installé 4 stations tout autour de la forêt de Fontainebleau. On a fait le premier été avec eux, là. On a été assez efficaces, notamment un feu qui a été détecté quasi 56 minutes avant de mémoire, parce que c'était tôt le matin.
Okay.
Donc c'est quand même une vraie victoire. Aussi, là, c'était la première fois qu'on développait une fonctionnalité de triangulation, où en fait, on a plusieurs stations autour de Fontainebleau, parce que quand il y en a plusieurs qui détectent en même temps, permet de croiser les signaux et de localiser le feu. Ouais. Et on a localisé avec une très bonne précision. En termes de facilité de déploiement aussi, on s'est déployé dans le Bas-Rhin aussi assez récemment, qui commence à se prémunir en risque du réchauffement climatique. Et on a vraiment pensé le système pour qu'il soit plug and play, ce que disaient un peu les collègues juste avant. Donc en fait, nous aujourd'hui, on est capable d'envoyer un colis par la poste et les pompiers ils l'installent en toute autonomie.
Okay.
La caméra est prémontée, il suffit de la fixer sur un poteau, tirer un câble et ça marche. C'est moins d'une demi-journée pour installer une station. Donc c'est assez efficace et on est assez content de ce travail autour de ça.
Et justement pour le développer, parce que bon, on voit bien l'intérêt de ce type de solution, est-ce que vous allez chercher du coup des financements nouveaux, différents là dans les mois qui viennent pour essayer de dire que même de manière un peu plus officielle, l'État pourrait aussi aider et se dire que bah voilà, on aide une association et c'est pas là aussi l'intérêt, en tout cas la différence par rapport à une start-up.
Oui, bien sûr, nous on est dans un modèle hybride où on va commercialiser la solution. Mais du coup, on la commercialise pour payer nos frais courants, mais à côté, on est subventionné aussi par le public, par le privé, donc des mécènes ou le public.
Voilà.
La direction interministérielle du numérique nous a déjà soutenus parce qu'il y a une volonté en France de soutenir l'open source pour des questions de souveraineté, parce que d'avoir du code ouvert, ça garantit une certaine souveraineté.
Ouais.
C'est une vraie question aujourd'hui. Et là, prochainement, je pars le mois prochain à San Francisco. On a été retenu dans un incubateur d'ONG, qui devrait nous donner une vraie visibilité. Et aussi l'accès à des subventions de mécènes américains, donc ce qui pourrait permettre de faire décoller le projet, notamment avec notre volonté de faire grandir la communauté à l'échelle mondiale.
Et ben c'est tout le mal que l'on vous souhaite, puisque
merci.
C'est évidemment hyper pertinent par rapport à tout ce que l'on s'est dit aujourd'hui, différents types d'innovations, de solutions très très concrètes et bien sûr très utiles. Merci à tous les trois.